Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire, à la technique et à la réalisation, ma complice Tiphaine et votre serviteur André Satenza. Aujourd'hui parmi nous, M. Gérard Castel. Bonjour Gérard.
Et bonjour, merci pour votre invitation.
Directeur de la filière sociale enfance au sein de l'association ANRAS, éducateur de formation, diplômé de CAFDES, diplôme de référence dans le secteur social et médico-social. M. Castel gère une très belle institution, le Chêne Vert, situé à Flourens, près de la ville de Balma. Le 24 février dernier, nous avons assisté en temps réel à la barbarie froide et cynique du régime de Vladimir Poutine. Nous sommes sidérés par la violence, nous sommes sidérés car la diplomatie n'a pas réussi à préserver la paix en Europe. Il faut saluer le peuple ukrainien qui, avec détermination, courage, défend des valeurs démocratiques et la liberté. Ils savent ce que c'est qu'aujourd'hui le prix de la liberté. Et bien entendu, les enfants payent un lourd tribut. Les chiffres qui sont donnés sont les suivants, 200 000 orphelins sur les routes de l'exil. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a demandé à l'ANRAS, à M. Gérard Castel, à la filière sociale enfance, en lien avec la Ligue de l'enseignement public, d'accueillir des enfants et des familles victimes de cette guerre. Il faut venir à l'aide aux victimes du destin. Il faut venir à l'aide de ses enfants. Monsieur Castel, pouvez-vous nous décrire ou nous présenter le dispositif qui accueille désormais des mamans avec des enfants qui ont souffert, des enfants traumatisés, des enfants de 2 ans, 3 ans et plus. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites du côté de Mondonville, la ville qui accueille ses enfants avec votre équipe?
Merci de me poser cette question un peu sensible. Alors, on n'est jamais très outillé contre la tragédie, mais il n'en reste pas moins que, malheureusement, le contexte actuel nous oblige à être attentif à la souffrance des enfants, puisqu'effectivement, dans toute guerre, vous comprenez bien que les enfants sont toujours les plus exposés, surtout dans cette guerre sale, que l'on pourrait dire sale, puisqu'en Ukraine, il suffit de regarder les images pour se rendre compte de la situation aujourd'hui des familles et des enfants. Donc le conseil départemental, à juste titre, et comme à son habitude, je tiens à le préciser, se rend utile le plus rapidement possible pour pouvoir répondre aux difficultés que pourraient rencontrer ces familles et ces enfants. Donc nous sommes allés ensemble d'ailleurs, monsieur Atenza, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maximum, nous sommes rendus au conseil départemental sur leur invitation pour savoir comment il était possible d'accueillir dignement ces familles et ces enfants sur le département de la Haute-Garonne. Comme à notre habitude, je le précise, nous répondons toujours présents à toute difficulté et toute difficulté exceptionnelle qui pourrait se mettre en œuvre sur le département ou hors département d'ailleurs. Nous avons donc décidé de monter cet accueil des Ukrainiens sur la partie protection de l'enfance. Je rappelle que le conseil départemental a pour mission de protéger les enfants et de protéger les familles qui ont des enfants en bas âge. Pour être plus clair au niveau réglementaire, effectivement, nous sommes là pour protéger les enfants de 0 à 18 ans qui pourraient être mineurs isolés sur notre territoire, mais aussi les mamans avec enfants de moins de 3 ans, sachant bien évidemment qu'il n'est pas question de séparer les fratries, à savoir qu'effectivement, si le plus petit enfant a 2 ans, il peut y avoir 5 autres enfants dans la fratrie, ils seront pris en charge, bien évidemment. D'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, vendredi dernier est arrivée une famille avec la grand-mère. Donc effectivement, il y avait une maman avec un enfant de 1 an et une grand-mère.
Vous les avez accueillis.
On ne va pas laisser la grand-mère devant la porte, vous le comprenez bien. Ça fait partie aussi de l'humanité, ça fait partie aussi des valeurs que nous avons conjointes avec le conseil départemental, la grande majorité des travailleurs sociaux, à savoir ne pas séparer les fratries, c'est une chose, mais ne pas séparer les familles, c'est aussi essentiel. Donc ce centre a ouvert il y a 15 jours aujourd'hui, puisque nous avons monté ce centre en 5 jours, je tiens à le préciser. C'est toujours un exploit de créer ce type de dispositif en si peu de temps.
Il faut saluer vos équipes, toujours volontaires. Dès qu'il faut être présent pour protéger les enfants.
Ben écoutez, oui, de suite, dès que nous donnons le mot d'ordre, il faut ensemble ouvrir un dispositif afin d'accueillir la souffrance, bien évidemment, instantanément, j'ai envie de dire, même miraculeusement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème de recrutement sur le secteur, au vu des problématiques salariales, mais malgré cela, vous voyez, rien n'a freiné le sens commun, puisque très rapidement, nous avons pu composer notre première équipe. Cette équipe est composée d'éducateurs spécialisés, d'éducatrices jeunes enfants, est aussi composée d'une psychologue ukrainienne. Donc, nous avions quand même besoin d'avoir la possibilité...
La barrière de la langue est vraiment problématique.
La barrière de la langue est problématique, notamment quand il peut y avoir trauma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous accueillons quand même des familles. La première famille que nous avons accueillie est une famille qui arrive de Mariupol. Vous imaginez bien dans quelles conditions ils sont arrivés. C'est une maman qui est arrivée avec son enfant de 1 mois. Le papa est actuellement à Mariupol pour essayer de défendre ce qui reste des ruines de Mariupol.
Ce sont des familles souvent qui ont tout perdu.
Absolument tout. Tout, puisque là, pour ne citer que cette maman, elle ne sait même pas si son mari est encore en vie à Mariupol. Elle n'a pas eu de nouvelles depuis son arrivée. Malgré que nous ayons organisé, enfin que la préfecture a organisé sur le département une communication immédiate au consulat ukrainien de Toulouse permettant effectivement que le lien soit fait avec l'Ukraine, même Mariupol, si effectivement le papa avait la possibilité de rentrer en communication. Bon, au moment où je vous parle, ce papa n'est toujours pas rentré en communication avec cette maman. On espère que cela arrive dans les prochains jours. Donc vous voyez que nous gérons quand même une souffrance à la fois immédiate, une souffrance aussi de séparation, puisqu'on parle du papa, mais on parle de la famille, on parle des amis, on parle des cousins, des cousines, de l'ensemble de la famille. C'est un trauma, c'est évident, qui demande qu'on puisse les accueillir chaleureusement, qu'on puisse les accueillir aussi dans des conditions qui sont des conditions adaptées à leurs difficultés. Il ne s'agit pas d'accueillir ces familles-là dans des dortoirs, dans des lieux ou dans des environnements qui pourraient leur être hostiles dès leur arrivée.
Justement, est-ce que vous pouvez nous décrire cet environnement de Mondonville, le domaine d'Ariane ?
Ça porte un joli nom. Alors le domaine d'Ariane, il faut savoir que nous les avons rencontrés sur le premier confinement, le 17 mai 2020, puisque je fais un petit retour en arrière, puisque le 17 mai 2020, nous avons tous été aussi complètement sidérés par cette pandémie. Et très très rapidement, nous avons dû ouvrir un grand nombre de places d'accueil d'urgence sur le département de la Haute-Garonne. Là aussi, en 5 jours d'ailleurs, on a l'habitude des 5 jours. Manifestement, en 5 jours, nous sommes capables d'ouvrir un service d'accueil d'urgence. Et effectivement, le domaine d'Ariane, qui est géré par la Ligue de l'enseignement, est un domaine qui, en règle générale, accueille des colonies de vacances ou des sorties scolaires. C'est un très beau domaine de 27 hectares avec un grand nombre de pavillons. Il y a 200 places en tout sur ce domaine, avec un gymnase, une piscine. Enfin bon, c'est un domaine très, très, très agréable, très vert. Avec un accueil et une, j'ai envie de dire, des lieux communs très agréables où on peut déjeuner ou faire des activités diverses. Donc pendant ce premier confinement, le 17 mars 2020, nous avions ouvert, c'était une première dans nos relations avec la Ligue de l'enseignement et le domaine de Mondonville. Il s'avère que, voyez, cette première a dû être adapté et a dû fonctionner, puisque très très rapidement nous avons eu affaire au domaine de Mondonville une seconde fois sur l'année 2021, notamment pour pouvoir accueillir les enfants étant touchés par le Covid, et porteurs du Covid, dans des situations quelquefois particulièrement difficiles. Et dès que nous avons rappelé le domaine d'Ariane et la Ligue de l'enseignement pour nous aider pour l'accueil des Ukrainiens, ils ont instantanément dit oui au titre de cette relation, cette relation amicale que nous avons pu tisser. Il faut quand même savoir que la solidarité et l'humanité, ça crée des liens souvent très très forts.
Voilà. La pratique de l'altérité, c'est une des valeurs défendues par votre association et également par le conseil départemental 31. Il y a un socle de valeurs, il y a une communauté de pensée sur cette... Les familles que vous recevez, les mamans que vous recevez, que font-elles de leur journée? Ils s'occupent bien entendu des enfants, mais on va rentrer, malheureusement, cette guerre va durer, la paix viendra, mais il faudra reconstruire. Donc ces personnes, dans le milieu dit ordinaire, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Est-ce que vous pouvez nous esquisser ce qui pourrait advenir pour ces familles?
Alors d'abord, quelle est notre mission?
Voilà, votre mission.
C'est quand même important de préciser cette mission, puisque l'État a des compétences, la cohésion sociale a des compétences, le département a des compétences. Le conseil départemental, sa compétence première nous concernant, c'est la protection des mineurs. Dans le cadre de l'article 375 du Code civil, c'est notre mission première, et donc nous sommes la porte d'entrée. Le domaine d'Ariane, en fait, aujourd'hui, et ce service d'accueil d'urgence des Ukrainiens, c'est la porte d'entrée à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire notre première mission, c'est l'accueil et le soin. C'est la première de nos missions. Ensuite, nous allons évaluer les besoins de l'enfant ou de la famille et nous assurer que ces besoins-là correspondent à leurs difficultés ou à leurs besoins immédiats. Et ensuite, nous serons sur un versant plutôt d'orientation. Donc, en attendant, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de l'accueil et du soin, nous allons évaluer les besoins de cette maman, si je parle de cette situation-là, les besoins de l'enfant, mais nous allons accueillir un grand nombre d'enfants qu'il sera nécessaire de scolariser. Donc nous avons une enseignante déjà sur place, on appelle ça une enseignante FLE, français langue étrangère, c'est-à-dire qui est adaptée à tout ce qui va être la pédagogie autour de la barrière de la langue, hein, puisque cette barrière de la langue existe, et on ne peut pas envoyer des enfants comme ça dans une scolarité dite classique si on n'a pas commencé à évaluer où en était l'enfant et ses capacités d'apprentissage. Donc nous allons mener tout ce travail-là pour permettre que l'inclusion scolaire de ces jeunes se fasse dans les meilleures conditions, quitte à ce qu'on puisse les accompagner un certain temps, même dans les classes, hein, permettant ainsi une intégration la plus adaptée possible, et qu'on ne soit pas dans une deuxième situation d'abandon, puisque vous savez que ces enfants sont en train de souffrir d'un certain...
Ou d'exclusion, encore une fois.
Donc, tout est organisé de façon à ce qu'effectivement, les familles et les enfants puissent s'intégrer le plus facilement possible, le plus harmonieusement possible. Au quotidien, ça se traduit par de la classe, par des activités, par du sport, par des sorties culturelles, par la connaissance de la ville de Toulouse, par des rencontres avec des autres Ukrainiens et Ukrainiennes.
La communauté ukrainienne est importante. Est-ce que vous avez quelques informations?
Alors, on n'a pas vraiment de chiffres sur le département. Nous savons effectivement... Alors, on découvre un petit peu.
On découvre un petit peu
au fur et à mesure, puisque notre premier contact a été une association ukrainienne sur la ville de Balma. Ça a été vraiment avec eux que nous avons été mis en contact dès le premier jour. C'est d'ailleurs cette association qui a pu nous aider à recruter une psychologue qui parle ukrainien, parce que franchement, quand on s'est dit va falloir trouver une psychologue, bon, non tact, mais si cette psychologue ne réussit pas à rentrer en communication avec la valeur des mots, ce qu'il représente, effectivement, nous avions très rapidement une difficulté importante à laquelle il fallait que l'on fasse face. Et cette association, très 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 rapidement, nous a aidés et nous a surtout accompagnés pour que l'on puisse trouver une psychologue qui aide au plus près les enfants et les familles en difficulté.
On va parler de l'école, mais un peu de légèreté. Je vous propose d'écouter Maxime Le Forestier qui chante Brassens. Ce sont des chansons pour des garnements. Et je pense que les enfants ont besoin de cette naïveté. On y va, la maîtresse d'école.
À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnet d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnet d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents ex-éco, d'excellents sex-éco. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le forant téméreux devenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco, nous étions tous derniers de la classe ex-éco, de la classe ex-éco. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Toujours Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, je reçois M. Gérard Castel, le directeur de la filière Enfance sociale au sein de l'ANRAS. Et nous parlions de l'accueil d'urgence des Ukrainiens, mais la filière sociale enfance et le Chêne Vert, dont il est le directeur, accueillent d'autres enfants. Il n'y a pas, en tout cas pour l'ANRAS, ni pour le conseil départemental, pourrait-on dire, de bons réfugiés, de bons déplacés, des mauvais déplacés ou de mauvais... Alors, toujours avec Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, parmi nous, Gérard Castel, le directeur Enfance et Famille. Eh bien, il n'y a pas, pourrait-on dire, de mauvais réfugiés, de mauvais déplacés. Aujourd'hui, des Ukrainiens, mais hier, c'était des Afghans. Aujourd'hui, c'était aussi des jeunes qui étaient dans des camps en Syrie. et bien entendu le chêne vert, toujours à la hauteur, toujours présent pour recevoir ces petits. Vous pouvez nous en parler de cette émission que vous avez menée il y a quelques mois?
Oui, tout à fait. L'Ukraine, c'est d'actualité. Et effectivement, je ne rentrerai pas dans la polémique qu'on accueille mieux les uns que les autres, puisque nous concernant, c'est absolument faux, puisque nous accueillons de la même façon, quelles que soient les origines et quelles que soient les difficultés. D'ailleurs, je rappelle que nous accueillons aujourd'hui 27 nationalités différentes. Le chêne vert et ses dispositifs d'accueil d'urgence pour les mineurs isolés, c'est 2400 accueils par an, c'est 140 accueils par mois sur le département de la Haute-Garonne, toutes nationalités confondues. Et en plus de cette mission d'accueil d'urgence, nous avons aussi des missions, on va dire, un petit peu particulières, puisque nous accueillons des enfants qui peuvent avoir des cursus que l'on ne souhaitera à personne, on va les dire les choses comme ça. Puisque effectivement les derniers enfants que nous avons accueillis, qui sont trois petits, 1 an et demi, 2 ans et demi et 4 ans, sont nés pour le plus petit est né dans une prison turque et pour les deux aînés dans un camp en Syrie. Donc ce sont des enfants effectivement qui arrivent sur le territoire national parce que dans le cadre du djihad, le papa est parti faire le djihad et amener une maman française dans son sac, on va dire. Il y a fait des enfants au pays et ensuite les a abandonnés. Et donc on se retrouve dans une situation un peu particulière où les enfants deviennent pupilles de l'État tant que la maman n'est pas passée en jugement, donc protégée par le gouvernement français. Ces enfants sont carrément protégés, ils ont même changé de nom et de prénom quand ils sont arrivés sur le territoire.
Réellement, on les met à l'abri, on les protège totalement, quoi.
Totalement.
Ils ne sont pas responsables des actions des parents.
Absolument.
Il faut le dire.
Absolument. Mais heureusement. J'ai envie de dire un enfant reste un enfant.
La liberté... mais vous savez, il y a une petite musique qui enfle haut et fort en disant « Mais ces enfants, ce sont des futurs terroristes ou autres. » Je crois qu'il faut tordre le cou à tout cela.
Bah, si vous voulez, cette musique-là, ceux qui ont envie de l'entendre l'écoutent, mais ça, c'est leur problème, puisque ça, c'est loin de la réalité, puisque ces enfants-là, effectivement, ont un pouvoir de résilience qui est absolument incroyable. Et puis, j'aimerais bien que tout le monde puisse vivre ce que l'on vit de temps en temps, quand on voit ces enfants avec ses yeux hagards et quelques semaines après avec des yeux ouverts sur le monde, ouverts sur l'espoir, ouverts sur le possible, ouverts sur l'amour, ouverts sur l'affection, en fait, ouverts sur tout ce qui fait l'humanité aujourd'hui et ce qui fait que demain, ces enfants-là auront la possibilité, à juste titre, de devenir des citoyens français et peut-être des citoyens avec des valeurs dont on n'imagine même pas ce qu'elles seront, parce que vraisemblablement qu'on peut imaginer que ces traumas de l'enfance permettront aussi de défendre les valeurs communes que nous avons et deviendront peut-être, allez savoir, des éducateurs des personnages ou des personnalités qui seront
en
défense.
En tout cas, ces enfants traumatisés, vous dites qu'avec cet accompagnement que vous faites à vos équipes, bien ils retrouvent de suite la joie de vivre, l'école, on joue avec le ballon. On revient à cette naïveté qui leur a été enlevée. Et ça, c'est important.
Exactement. Vous savez, le premier regard que l'on a pu porter sur ces enfants, si je parle d'eux en particulier, mais vous savez, je vous expliquais, il y en a quand même beaucoup, les premiers jours sont arrivés, ils dormaient sous le lit.
Ils avaient peur.
Ils avaient peur, ils dormaient sous le lit. Le tout petit qui était en prison avec sa maman, effectivement, dormait sous le lit, puisque c'est très bruyant, c'est une prison turque. Alors, je ne suis jamais allé visiter une prison turque, mais j'imagine qu'elle n'est, ça ne doit pas être un lieu adapté pour un petit de 1 an, 1 an et demi. Et très, très rapidement, il a fallu que l'on trouve les moyens pour lui permettre de réintégrer le lit. Alors, vous savez, on est plein de possibles. Nous, on a construit une cabane sur ce lit et en construisant une cabane, ce petit...
Mais il s'est mis à l'abri.
Ben, il s'est mis à l'abri dans la cabane et petit à petit, il a ouvert les portes de la cabane. Et maintenant, il nous demande même d'enlever la cabane puisque la chambre devient le lieu sécure et l'environnement dans lequel il est devient un lieu sécure et ce qui lui permettra de se construire tout à fait normalement et correctement. Pour l'aîné qui a aujourd'hui 5 ans, effectivement, il commence l'école. Il a déjà commencé à rentrer à l'école. Bien évidemment, on les a aidés à parfaire leur français, du moins les bases françaises, puisqu'ils avaient plusieurs langues à leur disposition. Et ce qui est assez admirable, c'est cette volonté des enfants d'apprendre et surtout cette capacité d'apprendre et de s'adapter à l'environnement. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est assez merveilleux parce que ça nous permet, ça facilite notre tâche quelque part.
Dites-moi, sur le Chêne Vert, vous accueillez ces enfants-là, mais il n'y a pas que ça. Vous accueillez des enfants français qui ont subi des traumatismes, des difficultés familiales, des enfants placés parfois par le juge, par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Le Chêne Vert, si mes informations sont bonnes, vous avez dit le chiffre d'accueil, mais c'est rempli, plus de 120 jeunes sur votre site aujourd'hui, là. Tout est rempli.
Oui.
Vous les accueillez, vous avez des infrastructures qui sont adaptées, un restaurant d'application pour les jeunes qui veulent apprendre des métiers, des infrastructures pour faire du sport, et tout cela dans un établissement qui est ouvert sur le canton. Des personnes viennent, fréquentent, paraît-il qu'il y a même un ranch avec des animaux. Expliquez-moi tout ce que vous faites dans votre établissement.
Écoutez, alors pour tout vous dire, le pôle social du Chêne Vert aujourd'hui, c'est 520 places en tout sur le dispositif global. Il y a plusieurs services, et notamment celle que vous citez, les 120 places qui sont aujourd'hui d'ailleurs, alors ça change très vite puisque nous sommes à 180 places aujourd'hui, c'est la maison d'enfants à caractère social. Cette maison d'enfants à caractère social est censée accueillir les situations de mineurs de 0 à 21 ans présentant des situations ou des situations ou dramatiques ou des situations de très très grande fragilité. Donc il est essentiel que ces enfants-là, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, la maison d'enfants accueille quand même plutôt 80% d'enfants issus du département de l'Haute-Garonne et 20% d'enfants qui peuvent venir de l'ensemble des autres pays que j'ai pu citer. Alors ça peut être des Guinéens, des Maliens, des Afghans, enfin tout enfant qui a droit à la dignité d'enfant. Peu importe d'ailleurs la nationalité. Je rappelle quand même que l'article 375 du Code civil, qui était quand même un article exceptionnel en France, indique que nous devons accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, leur culture, leur identité sexuelle, culturelle, leur couleur des yeux, la couleur des cheveux, peu importe.
Et indépendamment de ça, la République française a signé toutes les conventions internationales pour protéger les enfants.
Exactement.
Donc à ce titre-là, la République, pourrait-on dire, doit être à la hauteur dans l'accueil des mineurs.
Enfin, c'est quand même la beauté de notre pays, on est quand même en capacité d'accueillir. Nous partons du principe que les enfants ne sont pas responsables de leurs actes. À ce titre-là, puisqu'un enfant n'est pas responsable de ses actes, ça veut dire qu'il a besoin de protection. Nous ne faisons pas que le dire. Nous le mettons en œuvre. Sur le territoire national, alors au-delà de l'annexe du Chêne Vert, mais je vais vous en parler, sur le territoire national, c'est un exercice qui est mis en œuvre partout, sur tous les départements. Le président du conseil départemental, enfin les présidents ou présidentes des conseils départementaux, étant chef de file de la protection de l'enfance. C'est eux qui doivent, sur leur département, décliner cette protection. Et sur le département de la Haute-Garonne, effectivement, la maison d'enfants du Chêne Vert est aujourd'hui un établissement particulièrement reconnu par les collectivités territoriales, puisque nous accueillons de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri à la porte d'entrée. Tout enfant qui a besoin de protection est accueilli. Force est de constater, je ne vous le cache pas, du nombre très très important de jeunes en difficulté aujourd'hui sur le département ou en dehors du département. Pour quelle raison ? Elle est diverse. Bien souvent, nous nous rendons compte que un certain nombre des enfants que nous accueillons n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir une enfance, on va dire, la plus consensuelle possible. Ce sont des enfants qui peuvent avoir été maltraités, ça peut être des enfants qui ont été abandonnés, ça peut être des enfants qui ont des problématiques psychiques, ça peut être des enfants qui ont commis des délits, tout type de problématiques, mais quoi qu'il en soit, quoi que soit la problématique, ben, ça reste un enfant. Il n'est pas né avec cette problème. Il n'est pas né délinquant, par exemple. Il ne s'est pas dit, hein, quand il est né...
Il n'y a pas un gène de la délinquance, il faut qu'on se le dise.
Quand il a poussé son premier cri, il n'a pas crié en disant « je m'avais volé une bagnole ». Bon, je veux dire, c'est les enfants naissent dans un environnement qui peut être plus ou moins stable. Et c'est cette stabilité de l'environnement qui fera que, oui ou non, cet enfant va pouvoir progresser et se développer normalement. Ceci dit, force est de constater, vous le savez bien, qu'il y a une partie de notre population qui peut être violente et maltraitante. Nous accueillons sur la maison d'enfants du Chêne Vert, je vais vous dire, c'est à peu près 3/4 si on doit avoir, voir un petit peu quels sont les profils.
Les grandes activités.
Les grandes activités, oui. 1/3, ce sont des enfants qui ont été maltraités sexuellement. Ce ne sont pas que les filles. Donc ça représente quand même un gros morceau de notre activité, avec des enfants malheureusement de plus en plus jeunes. Alors on pourrait, je ne sais pas si c'est un phénomène nouveau ou ancien, quoi qu'il en soit aujourd'hui, ce que l'on peut dire, on a tendance à dire qu'il y a de plus en plus d'enfants maltraités en France. Est-ce que c'est vrai ? Ça, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui on le détecte plus facilement.
Les signalements sont faits, vous savez, on est plus vigilant.
Les départements se sont organisés, il y a une crypte, il y a tout ce qu'il faut, il y a des numéros verts, en fait. Il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de protéger les enfants, et effectivement, on pense... Alors, je n'ai pas les chiffres en main, mais on pense effectivement que c'est ce qui amène aujourd'hui à avoir de plus en plus d'enfants protégés. Mais ça, c'est un fait. Mais il n'en reste pas moins qu'on pourrait en avoir plein d'autres. Par exemple, la population de Toulouse Métropole, c'est 20 000 habitants de plus par an. 20 000 habitants de plus par an, c'est à peu près 5%. C'est les moyennes, hein. À peu près 5% d'enfants maltraités. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est dommage, c'est comme ça, c'est à peu près 5%. Donc, on sait que tous les ans, il y a une augmentation...
Les statistiques ne sont pas cyniques, mais en tout cas, ils disent une vérité et des faits. Aujourd'hui, quand la population augmente de 20 000 personnes de plus, on sait qu'il y aura 2-3% de personnes en difficulté, des personnes au RSA, des personnes qui sont maltraitées. Et donc, vous, en tout cas, avec vos équipes au Chêne Vert, dans votre association Arras, vous devez accueillir cette misère et faire en sorte que les jeunes puissent se porter le mieux possible.
Exactement. Et ce qu'il est important de faire, surtout, c'est de permettre à chacun des enfants de pouvoir imaginer son avenir. C'est une très grosse difficulté, puisque un enfant qui a été maltraité, malmené, abîmé, en règle générale, alors on dit dans notre jargon du secteur, on dit qu'il a une partie de son cerveau qui est là pour lutter contre le trauma et l'autre partie qui est là pour essayer d'exister. Donc notre grosse mission, c'est de faire en sorte que cette partie du cerveau que l'on va qualifier de traumatisé, diminue au maximum, lui permettre d'avoir la possibilité de reprendre sa vie en main, de devenir une personne à part entière et donc de pouvoir s'exprimer. Donc c'est assez complexe. Et pour y arriver, effectivement, on va avoir un grand nombre d'outils. Alors on va avoir déjà les outils éducatifs. Alors vous savez, les outils éducatifs, on en a conçu une multitude sur...
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Ça fait 34 ans, moi, si vous voulez. J'ai commencé comme jeune éducateur remplaçant il y a 34 ans. Les méthodes que l'on avait étaient plutôt des méthodes dures, des méthodes basées sur la frustration. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un jeune ne respecte pas quelque chose, comme il y a un interdit qui tombe, et cet interdit pouvait être violent. Alors quand je dis violent, ça ne veut pas dire on leur mettait la main sur la figure, mais ils pouvaient être punis, ils pouvaient être à un moment donné coupés des autres copains et copines, enfin tout le système de frustration que l'on a connu. D'ailleurs, nous-mêmes à l'école, on nous mettait au coin, on mettait en exergue la difficulté que l'on venait de mettre en place.
Il y avait parfois, ici et là, un peu d'humiliation également dans nos pratiques éducatives.
Je pense qu'il y avait un peu d'humiliation. Je pense qu'on l'a connu un peu aussi dans nos familles, nos familles personnelles. Enfin, moi, quand j'étais mon père, je veux dire...
Qui pouvait être dur, les parents durs.
Voilà. Il ne me prenait pas dans un coin, catimini, pour que personne ne le voie, qu'il était dur. Je pense que c'était quand même une éducation qu'on a connue à une époque. Et donc, cette éducation, elle s'est construite... Le monde éducatif s'est construit aussi à partir de cette éducation-là, avant qu'on ne la rende professionnelle. Il faut savoir qu'au début, C'était des bonnes volontés hein, qui se sont organisées et petit à petit, on a professionnalisé le secteur. Et en professionnalisant ce secteur, on a mis l'accent quand même sur les besoins de l'enfant de connaître les limites. Les limites qu'il ne devait pas dépasser, puisqu'on considérait qu'effectivement, s'il dépassait ses limites, il ne pourrait pas devenir un citoyen à part entière. Et pour qu'il ne dépasse pas ses limites, on avait tendance à agir sur la frustration. C'est-à-dire frustrer l'enfant pour lui permettre de se rendre compte qu'il a bien acquis la limite. Donc ça pouvait passer par la punition, par tout ce que vous voulez.
Et là, vous avez changé cela.
Ben, on l'a étudié, je l'ai étudié
oui,
à l'école
éducateur. Voilà.
On a étudié le bien fondé de la frustration et tous les éléments qui pouvaient aller autour. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des approches qui sont plutôt sur des approches de valorisation des compétences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire valoriser les compétences? Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne le faisait pas, mais on le fait juste différemment. Cette frustration, on considère aujourd'hui que les enfants sont déjà fortement frustrés. Quand vous êtes un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, que vous avez déjà subi des actes que personne ne saurait supporter, on peut considérer que cet enfant est déjà frustré. Et donc, si vous rajoutez de la frustration à la frustration, vous êtes en opposition avec ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on remplit le cerveau de frustration et plutôt que de le remplir de possible. Et donc, nous basons plutôt aujourd'hui sur ce que nous appelons la sanction non punitive. C'est-à-dire que l'on va essayer de rechercher avec autant de détermination ce que l'enfant est en capacité de produire comme positif pour lui.
Pour le valoriser au maximum.
Pour le valoriser, pour lui permettre d'exister, pour lui permettre de porter un jugement le concernant qui soit un jugement positif. Il faut savoir que ces enfants-là ont une vision d'eux-mêmes qui est absolument apocalyptique. Certains enfants se demandent même quel est l'intérêt pour eux de continuer à exister.
Ouais.
Il n'y a aucun possible pour certains. C'est-à-dire, il y a des enfants, quand ils arrivent, ils se demandent même qu'est-ce qu'ils font là, puisque ça ne sert à rien de les aider, puisqu'ils ne sont que le malheur de leur propre malheur. Ils n'ont même pas la capacité d'identifier ce qui a pu leur faire mal. Ils sont eux-mêmes le mal. Donc, il est nécessaire de passer à autre chose. Et ce qui est absolument admirable dans notre métier, j'ai envie de dire, je le répète souvent, et je pense que c'est ce qui fait qu'on se lève tout le matin avec autant d'entrain, c'est que les enfants ont une capacité de résilience, une capacité à passer à autre chose qui est assez époustouflante, pour employer un terme du Sud. Parce qu'effectivement, ils ont ce possible, cette capacité à répondre au sourire, cette capacité à répondre à une main tendue, cette capacité à répondre à un éducateur ou une éducatrice qui va tenter de lui exprimer ce qu'il pourrait être demain et comment il pourrait le faire ensemble.
Comme il y a toujours du possible, je vous propose une autre pause musicale, Mourir d'aimer, Copa y Segundo et Charles Aznavour.
Bon choix.
Sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor. Morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochecer flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor. nuestro amor es invencible. Y ante los hombres imposible. No tengo otra solución. Morir de amor.
Con frente alta y firmes pasos. De vencer este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor.
Morir de amor, como si fuese mi enfermedad, con la vida tener que pagar.
Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos consuelo. Morir de amor. Morir de amor.
Esprit Occitanie, toujours votre émission Sentinelle d'Humanité, et avec moi ce matin Gérard Castel, le directeur de la filière sociale enfance, directeur du pôle social Le Chêne Vert, et un établissement qui fait référence dans le département. Je vous dirais même plus, et ce n'est pas pour flatter mon invité, établissement qui fait la référence à la région Occitanie. Vous accueillez des enfants, et souvent des enfants en fin de vie. J'ai appris que l'ensemble de vos services et vos équipes avaient accueilli un jeune que vous connaissiez, qui avait une maladie grave, et vous avez tout fait pour que ces derniers instants, ces dernières semaines, soient les plus apaisés possibles. Pouvez-vous rapidement nous faire part de cette expérience ?
Alors c'est une expérience un peu difficile, mais...
Mais c'est aussi cela, la protection de l'enfance.
De toute façon, la protection de l'enfance, pour certains, c'est tout est difficile. Mais ce qui est important surtout, c'est de se dire que ces enfants-là ont besoin d'avoir une main chaleureuse et un environnement qui leur permette de pouvoir vivre leur vie le mieux possible. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que nous faisions un accueil inconditionnel. Un accueil inconditionnel, ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'on est en capacité de prendre en charge la totalité des problématiques d'enfants. Et donc, dans ce cadre-là, nous accueillons aussi parfois des enfants qui sont atteints de maladies graves et qui passeraient leurs derniers mois de leur vie enfermés dans une chambre d'hôpital seuls. Ce sont des choses sur lesquelles...
Ce ne sont pas les meilleures conditions, pourrait-on dire.
Pour personne.
Pour personne.
Pour personne, bien sûr. Pour personne. Surtout pour des enfants de 15 ou 16 ans, ou moins. Donc, l'hypothèse que nous retenons, c'est que ces enfants-là, qui peuvent être seuls sur notre territoire, puisque là, il s'agissait d'un mineur isolé de 16 ans, donc sur la situation dont vous parlez, à qui il restait, quand on nous a demandé de l'accueillir... de 3 semaines de vie, en fait, il a quand même vécu avec nous presque 6 mois. Ces 2-3 semaines ont basculé à 6 mois, ce que nous sommes très heureux. Quel a été le but de cet accompagnement ? Le but de cet accompagnement, c'est à la fois qu'il ait un environnement dans lequel il se sente bien, d'ailleurs qu'il appellera très rapidement sa maison, qu'il puisse avoir des copains et des copines de son âge pour continuer à vivre ses 16 ans jusqu'au bout, puisque c'était notre volonté première. Apaiser les souffrances au maximum avec une présence permanente, constante à ses côtés. Faire le lien avec l'hôpital et les personnels soignants pour qu'ils puissent avoir une place, pas singulière, mais une place reconnue au sein de l'hôpital, pour que les médecins et les interlocuteurs aussi pour pouvoir adapter les traitements et les difficultés rencontrées par ce jeune. Il avait un vœu, ce jeune, vous voyez ? Il avait un vœu. Un de ses plus beaux, ce qu'il aurait aimé au maximum, c'était rencontrer un de ses plus grands joueurs de foot, d'ailleurs qui aujourd'hui, alors je ne suis pas très bon en foot, monsieur Atenza, donc je ne vous dirai pas exactement de qui il s'agit, mais en fait, il devait rencontrer, son rêve était de rencontrer un de ses le grand joueur de foot qui d'ailleurs joue en Angleterre aujourd'hui. Nous l'avons réalisé.
Vous l'avez réalisé. Avez tout fait pour le faire venir.
On l'a fait venir. Il est venu.
Il est venu. C'est sympa de sa part.
Ben, c'est sympa de sa part.
Disons en tout cas, vous avez bien présenté.
On a réussi à présenter quand même le projet. Il s'est déplacé. Il a rencontré ce jeune chez nous, enfin à la maison d'enfants. Et nous en sommes très heureux puisque ce jeune... comment voulez-vous que je vous dise ça? À 16 ans, ce n'est pas l'âge pour décéder.
Ben non.
Hein, vous le comprenez bien. Et donc, on a essayé.
C'est injuste de partir trop tôt. C'est toujours injuste de partir trop tôt. Il y a un philosophe qui disait qu'au tribunal de la Théodicée, Dieu doit rendre des comptes. Mais là, je blasphème. Mais il doit rendre des comptes. C'est injuste de partir trop tôt. Ce n'est pas dans l'ordre des choses.
Et pour autant. Ce qu'il était important pour nous, c'est que ces quelques semaines qui lui restaient devaient être remplies de vie et non pas remplies de mort.
Et vos équipes ont fait ça.
Alors, je rappelle que sur ce type de situation, ce sont les éducateurs, les éducatrices qui sont volontaires. Alors, force est de constater qu'au Chêne-Vert, c'est toujours des opilas, mais beaucoup de monde sont volontaires pour aider dans des situations de ce type-là. Et nous avons constitué une équipe autour de cet enfant qui a été digne jusqu'au bout. Il faut savoir quand même que les éducateurs lui ont tenu la main jusqu'au dernier souffle, à l'hôpital, tel qu'il le souhaitait. Donc voilà le type d'expérience. Alors, vous me direz, ce n'est pas notre quotidien, nous ne faisons pas que ça. Mais ça donne l'état d'esprit, ça donne les valeurs que nous défendons, ça donne aussi les valeurs communes avec le conseil départemental, puisque je rappelle que ce jeune était confié à l'aide sociale à l'enfance et qu'ils ont été eux aussi mis en difficulté quand ils se sont rendus compte que le seul lieu pour cet enfant restait la chambre d'hôpital. Alors, merci à l'hôpital pour les soins prodigués à cet enfant. Mais merci à l'aide sociale à l'enfance et à l'ANRAS pour avoir donné un toit à cet enfant sur ces dernières semaines et surtout un toit chaleureux et digne.
Les partenariats, parce que vous parlez de partenariats, on sait que les partenariats sont difficiles, mais dans de telles circonstances, vous réussissez à mettre les gens autour de la table, tous les interlocuteurs, pour que ça se passe bien. Il vous arrive de taper du poing de la table pour dire il faut faire comme si, parce qu'il y a quelque chose qui est primordial. C'est l'intérêt majeur de l'enfant.
Alors, taper sur la table, monsieur
Attal. Non, vous ne le faites pas.
J'ai plutôt l'impression qu'on tambourine la table en permanence. Ah. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que nous avons en face de nous des interlocuteurs qui, la plupart du temps, sont réceptifs.
D'accord.
Que ce soit les services sociaux de l'hôpital, pour ne pas citer cette situation, ou uniquement cette situation, mais ça peut être l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi les réseaux, puisque notre solidarité, elle est faite aussi d'hommes et de femmes dans un réseau assez élargi avec lesquels on travaille et qui nous permettent de mener cette mission. L'image du Chêne Vert n'y est pas pour rien non plus. L'image du Chêne Vert, c'est aussi, aujourd'hui, ça ouvre quand même des portes et ça sécurise un certain nombre de nos partenaires. Nous sommes toujours partants pour. Donc effectivement, au fur et à mesure des années, ce savoir-être, ce savoir-faire, aujourd'hui reconnu par les partenaires, je dois dire, nous aide dans nos missions et dans nos actions. Et c'est une bonne chose pour les enfants, puisque nous avons plus de possibles aujourd'hui que l'on ne pouvait en avoir hier.
On arrive au terme de notre émission. On pourrait parler des heures et des heures du Chêne Vert, de votre mission auprès des enfants. Mais je souhaiterais peut-être en quelques minutes que vous nous parliez de quelque chose que vous avez mis en place dans les dernières années, cette médiation animale. Et vous avez un ranch, une ferme, où vous accueillez des lamas, des vaches, des poules, des ânes, des chevaux, une mascotte, un chien. C'est une ménagerie, là. Que font-ils tous ces animaux avec ces enfants?
C'est vrai. Ben, écoutez, il est important, nous semble-t-il, d'avoir tous les outils nécessaires pour permettre à ces enfants, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir grand les yeux sur le monde. Les animaux, c'est un des outils relationnels très importants que l'on peut avoir.
Et ça fonctionne bien?
Ça fonctionne admirablement bien. Ça fonctionne admirablement bien. Alors, ensuite, il faut savoir quand même que ce ranch, cette ferme, on l'a situé en plein milieu de l'établissement. Ça fait partie presque de la vie des enfants. Les enfants ne peuvent pas passer à côté des animaux sans les voir. Et inversement, d'ailleurs. puisque les animaux sont très attachés aux enfants. Il y a une relation qui se crée avec les animaux qui est assez extraordinaire. S'occuper d'un animal, c'est aussi s'occuper de soi. Apporter attention à l'animal, c'est aussi porter attention à soi. Avoir une relation privilégiée avec un animal, c'est aussi apprendre à avoir une relation privilégiée avec, avec d'autres êtres humains. C'est plus facile avec les animaux qu'avec nos pères, puisque l'animal souvent vous le rend gracieusement.
Il ne juge pas.
Il ne juge pas. Les êtres humains ont tendance, en règle générale, à se méfier de leur relation à l'autre, en règle générale. Et donc, ça demande quand même une certaine expertise de la relation. Avec les animaux, c'est beaucoup plus facilitateur. Mais je vais vous donner un exemple pour les tout-petits. Nous avons des enfants tout-petits, donc nous avons des animaux tout-petits.
Tout-petits.
La vache dont vous parlez, c'est une vache naine. Nous avons des moutons nains. Nous avons des poneys nains, comme nous avons des chevaux de grande taille. Donc ce sont des animaux qui sont à la fois soignés par les enfants, mais dont les enfants vont pouvoir, par exemple, monter les chevaux, monter l'âne, faire promener le lama, voir des activités avec les chèvres, enfin, etc., etc. C'est un lieu très, très demandé, très sollicité par les enfants. C'est un lieu de joie, c'est un lieu qui permet, comme je vous disais tout à l'heure, de leur permettre d'ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure. Et c'est un bel outil pour nous. Ce n'est pas le seul, ça en est un, parce que vous parlez tout à l'heure du sport, vous parlez tout à l'heure des diverses activités que l'on a, puisqu'on a aussi un restaurant d'application, en fait, on forme aussi au métier, mais... C'est un seul outil n'est pas suffisant, mais par contre, un certain nombre d'outils permettent d'arriver à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que l'enfant puisse s'inscrire le plus librement possible dans sa vie future et surtout avoir appris à se protéger.
Pour conclure, nous terminons Esprit Occitanie aujourd'hui, sentinelle d'humanité. Quel a été l'élément déclencheur, Monsieur Castel, pour faire ce métier ? Est-ce qu'on vient par hasard ? Rapidement, comment cela vous est passé dans le corps, dans l'esprit, parce qu'on vit ça avec les tripes.
On vit ça avec les tripes. Je ne sais pas comment ça s'est passé très réellement, mais enfin bon, je pense que comme beaucoup, nous avons toujours voulu participer à cette protection, à faire en sorte que tout être humain et tout enfant puisse vivre dignement. Il n'est pas possible de ne rien faire.
D'accord.
Il n'est pas possible de ne rien faire. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ça tient les tripes, c'est vrai que ça nous fait lever le matin, c'est vrai que ça nous fait vivre. Mais pourquoi ça nous fait vivre ? Parce qu'on y croit, parce qu'il est possible pour chaque enfant d'avoir une vie et une réussite dans la vie. Juste je vous donne un chiffre. Plus de 80% des enfants que nous accueillons aujourd'hui ont une vie classique et digne. Dans leur existence future, ils apprennent un métier. Nous avons des jeunes qui vont suivre des cursus scolaires classiques, d'autres qui seront dans des cursus professionnels. Nous en avons même un qui est rentré en fac de médecine cette année. Tout est possible. Tout est possible. Je tiens à le dire. Il suffit juste de les considérer.
Merci pour le métier que vous faites. Nous vous félicitons. Félicitez vos équipes. Sentinelle d'humanité, bien, on se retrouve... Bien évidemment, pour tous nos auditeurs qui savent que les sentinelles d'humanité sont nécessaires dans ce monde barbare.
Merci à vous.